Castorama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, la révolte des esclaves de Spartacus. Je vous emmène à l'été 73 avant notre ère. 73 esclaves s'échappent de l'école des gladiateurs de Lentulus Ballyatus à Capoue. Ils sont commandés par Spartacus, un ancien berger thrace, vendu comme esclave pour avoir déserté un contingent auxiliaire de l'armée romaine. Il se procure des broches et des couperets dans la boutique d'un rôtisseur. En chemin, il dévalise une charrette chargée de poignards et de glaives. Spartacus et les siens gravissent le Vésuve, dont les pentes et le cratère sont recouverts de sarments de vignes. Au sommet, le vaste entonnoir du volcan éteint constitue une excellente position pour établir un camp. À Rome, le Sénat s'alarme et dépêche le propréteur Claudius Glaber et 3000 fantassins pour débarrasser au plus vite la contrée de cette poignée de bandits. Sur les versants de la montagne, sauf face à la mer, il érige une muraille inaccessible qui tombe à pic sur des bois. Il attend que la famine et la soif réduisent les gladiateurs révoltés. Une seule possibilité s'offre à Spartacus, descendre par l'Appic que Claudius Glaber n'a pas prévu de surveiller. Les gladiateurs coupent des branches vigoureuses puisées parmi les sarments de vignes sauvages et les transforment en échelles. À la faveur de la nuit, ils gagnent le pied de la montagne. Guidés par des bergers, ils contournent le volcan sans s'écarter de l'orée du bois et se ruent sur les Romains pris par surprise. C'est un massacre effroyable. Le camp militaire est saccagé, Spartacus tue le cheval de Claudius Glaber qui parvient à fuir protégé par ses centurions. Impressionnés par cette victoire, des bouviers et des bergers se joignent aux gladiateurs. À cette époque, à cette troupe s'ajoutent des travailleurs libres armés de serpes, fourches, râteaux, fléaux, haches, épieux et massues. Spartacus compte bientôt sur 7000 hommes qu'il lance dans des razzias à travers les campagnes. Mais les autorités romaines réagissent. Elles envoient de nouvelles troupes. Le préteur Varinus est écrasé. 2000 hommes placés sous les ordres de son légat sont taillés en pièces. Un second détachement est décimé et son général, surpris dans son bain, se sauve dans un accoutrement humiliant. L'automne 73 avant notre ère se passe dans le brigandage. La terreur gagne les cités de la Campanie. Spartacus souhaite entraîner ses hommes en direction des Alpes, mais il refuse de lui obéir et continue à ravager l'Italie. 10 000 combattants font défection pour gagner l'Apulie. Spartacus remonte vers le nord avec 30 000 hommes. En 72, le Sénat envoie 2 consuls, Gellius et Lentulus, et 6 légions pour écraser les foyers de rébellion. Gellius se lance à travers les Apennins à la poursuite des insurgés. Lentulus barre la route septentrionale à Spartacus qui se heurte à lui et le contraint à abandonner ses positions. Puis, par une brusque volte-face, il fait front à Gellius et le force à une retraite honteuse et désordonnée vers le nord et débouche dans la plaine du Pô. Le proconsul Cassius, qui commande la Cisalpine, le rejoint près de Modène avec une armée de 10 000 hommes. Il est battu et parvient difficilement à se sauver. Spartacus fait marche arrière, il brûle les bagages inutiles, assomme les bêtes trop lourdement chargées et se dirige vers Rome. La capitale semble à sa merci. Le Sénat ordonne aux 2 consuls de se porter au devant de lui pour l'empêcher d'accéder à la cité. Spartacus les défait, puis d'une manière surprenante, regagne ses bases lucaniennes. À Rome, c'est la panique. Des milliers d'esclaves désertent. Un effondrement économique et la famine menacent. Alors, un homme d'une richesse colossale et d'une ambition démesurée, Crassus, décide de sauver Rome. À l'automne 72 avant notre ère, il rassemble 10 légions qu'il mène contre les rebelles. 6000 esclaves sont tués, les Romains font 500 prisonniers, Spartacus songe à gagner la Sicile, mais il ne dispose pas de navire. Il se déplace vers Regium, aujourd'hui Reggio des Calabres. Là, il espère s'embarquer sur les bateaux des pirates siciliens qui parcourent la Méditerranée. Or, il est abusé. Les pirates perçoivent le prix du transport, mais prennent la mer sans lui. Talonné par Crassus, il établit son camp dans la presqu'île de Regium vis-à-vis de Messine. Il construit des radeaux à l'aide de jarres et de rondins liés ensemble par des cordes, mais la mer se joue de ces embarcations improvisées. Le projet de passer en Sicile échoue. Crassus barre l'isthme et bloque Spartacus par une palissade précédée d'un fossé de 55 km de long. Spartacus tente de forcer le passage. Il profite d'une nuit où souffle un vent très froid pour combler avec de la terre et des arbres une petite partie de la tranchée dont la muraille est inachevée. Il permet ainsi à un tiers de ses effectifs de s'échapper. La guerre des gladiateurs s'achève en mars 71 avant notre ère. La bataille décisive laisse 60 000 esclaves sans vie. Il est impossible de reconnaître le corps de Spartacus dans cet amoncellement de cadavres. Il reste un anonyme dans la mort. Crassus achève les quelques bandes qui échappent au carnage, puis il reprend le chemin de Rome avec 6000 prisonniers qu'il crucifie le long de la voie appienne. Au même moment, Pompée s'achemine vers le sud avec ses vétérans venus d'Espagne. En Étrurie, il croise 5000 esclaves qu'il anéantit, après quoi il écrit fièrement au Sénat « Crassus a vaincu le mal, moi j'en ai extirpé la racine ». Nous nous retrouvons dans un instant après une pause musicale pour la chronique littéraire. Un jour, 3 livres, mais avant cela, nous allons écouter un groupe mythique des années 1980 venu de Rennes, le groupe Niagara avec sa chanteuse Muriel Moreno. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, Assez.
Pour rien, le conscient.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Il est venu le temps de la chronique littéraire. Un jour, trois livres, exceptionnellement aujourd'hui deux livres. Deux livres d'une même thématique, à savoir l'art très particulier de la correspondance épistolaire, avec pour commencer La famille Bronte, lettre choisie, ça vient de paraître chez Gallimard dans la collection Folio. Ce volume présente un florilège de la correspondance de la plus célèbre famille littéraire anglaise popularisée à l'écran par André Téchiné en 1979. Vous connaissez sûrement Jane Eyre et Les Hauts de Hurlevent, les deux principaux romans de Charlotte et Emily Bronte. Il faut encore citer la troisième sœur, Anne, et le frère, Branwell, sans oublier leur père, le pasteur Patrick Bronte, établi dans son presbytère de Haworth, qui survit à ses enfants. Pour ce recueil, Constance Lacroix a réuni, traduite et commentée plus de 300 lettres parmi le millier d'épîtres connues de la correspondance familiale qui s'étend du décès de la mère, Maria, en 1821, à celui de Charlotte, en 1855. Elles permettent de comprendre les souffrances et les refoulements qui traversent le destin tragique de cette fratrie. À noter la remarquable préface de Laura L. Mackey, journaliste à France Inter et enseignante à Sciences Po Paris. Famille Bronte, lettre choisie, s'est publiée chez Gallimard, dans la collection Folio. Et puis André Gide, sa correspondance 1888-1951, toujours chez Gallimard, dans la même collection Folio. Professeur émérite de littérature française du XXe siècle à l'Université de Nantes, Pierre Masson a choisi, présenté et annoté les lettres publiées dans cet épais volume, qui couvre l'ensemble de la vie littéraire d'André Gide. Sa correspondance est conséquente. Elle compte plus de 28 000 lettres adressées ou provenant de près de 2 300 personnes, comme le souligne le romancier peu avant son décès. « Je faisais métier de mon amitié. C'est un métier fatigant qui requiert des soins assidus. Je m'y usais. J'écrivais peu à chacun, mais j'écrivais à beaucoup. Il s'adresse en particulier aux 5 autres pères fondateurs de la célèbre nouvelle revue française, la NRF, publiée par Gallimard et voulue et portée par André Gide. Elle éclaire également l'intérêt du prix Nobel de littérature pour l'évolution politique de son pays, l'affaire Dreyfus, et les relations franco-allemandes y tiennent une place essentielle, tout comme sa sensibilité à la cause communiste. Enfin, la relation épistolaire de l'auteur des Caves du Vatican avec sa mère est passionnante. André Gide, correspondance 1888-1951, s'est publié chez Gallimard dans la collection Folio. Voilà, ainsi s'achève cette émission Historama. Nous allons nous séparer en musique avec toujours le groupe Niagara, Muriel Moreno et Daniel Chamevez. Nous écoutons Cheeky Boom, l'un de leurs plus grands succès.
Viens sentir le goût de mes lèvres, viens plonger dans l'eau. Oh,